Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé bien-être du lundi au vendredi en direct, même un lundi de Pâques, hein, de 15h à 16h, comme tous les jours. Il est à mes côtés dans ce studio, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Vous n'avez pas mangé trop de chocolat, ça va ?
Et si c'est horrible, j'ai très mal au ventre, mais heureusement quelqu'un va nous aider. Justement.
Ah voilà, on verra si le chocolat c'est bon pour le cœur, parce que c'est notre grand dossier du jour. Nous allons passer à table, on va s'intéresser à ce qu'il faut manger au quotidien pour prendre soin de son cœur et de ses artères. Savez-vous quels sont les aliments qu'il faut privilégier pour prévenir par exemple le diabète ou même diminuer son risque d'infarctus? Peut-on vraiment manger autant d'œufs qu'on le souhaite, même malgré le cholestérol qu'ils contiennent? Par quel mécanisme le thé vert pourrait-il protéger notre santé cardiovasculaire? Et bien, pour répondre à ces questions et bien d'autres, bien sûr, notre invité, ce sera le docteur Jacques Fricker. Il est médecin nutritionniste à l'hôpital Bichat à Paris. Ensuite, comme tous les lundis, désormais notre chronique beauté avec Benjamin Lévesque. Aujourd'hui, il viendra nous donner ses meilleurs conseils pour bien conserver, stocker nos cosmétiques. Et enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous parlera des rivalités, des jalousies qui peuvent exister vis-à-vis de la vie sentimentale des autres, voire même de celle de son frère ou de sa sœur.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va commencer par cette question de Lina. Écoutons-la.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy, j'aurais une question à vous poser. Alors je suis enceinte de 4 mois et puis on m'a conseillé de commencer des séances d'aptonomie. On m'a dit que ça permettait de communiquer avec mon enfant et je trouve ça carrément génial. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus sur le sujet? Ça m'intéresse énormément. Merci beaucoup.
Alors Jimmy, même si vous êtes un spécialiste de l'aptonomie...
C'est pas vrai, je sais même pas ce que c'est, franchement.
Avec une femme sage-femme, je pense qu'elle sera pas très contente. Alors justement, pour répondre à Lina, on a fait appel à une spécialiste du sujet. Écoutons les précisions de Véronique Priem, sage-femme libérale à Lille.
L'aptonomie vous met en relation avec votre enfant, avec son père ou alors avec un tiers, hein, lorsque le père n'est pas présent. Vous auriez pu débuter plus tôt pendant la grossesse, même avant ces 4 mois. Vous allez découvrir un tas de choses. Vous allez sentir que votre enfant vous répond, se déplace vers son père, se dandine, va faire peut-être des petites roulades. Vous pourrez échanger avec lui. Des fois même, c'est lui qui vous appelle et qui se manifeste. Cette relation affective, ça change beaucoup de choses chez vous, chez lui. C'est tout cela que vous allez découvrir et c'est très précieux pour le déroulement de la grossesse et pour l'accouchement. Alors l'aptonomie, c'est aussi une vraie préparation à l'accouchement en équipe qui se poursuit aussi après la naissance jusqu'à la marche autonome de votre enfant.
Voilà, c'était Véronique Priem au micro de Valentin Piovesan. Jimmy, à présent, on va prendre une autre question. Celle-ci, elle est pour vous. C'est la question de Marie-Annick.
Je suis porteuse d'une gammapathie. Depuis quelques temps, je ne me vaccinais plus puisqu'on m'avait déconseillé en me disant que je pouvais flamber n'importe quelle maladie. Et là, je me pose la question au niveau du Covid, si cette gammapathie m'empêche vraiment de me vacciner.
Jimmy, alors une gammapathie, peut-être juste un mot sur ce que c'est, parce que tout le monde n'est pas forcément au courant. Est-ce que c'est forcément une contre-indication à la vaccination Covid?
Absolument pas, c'est pas une contre-indication et je suis d'ailleurs étonné de son affirmation. Alors, pour bien comprendre, la gammapathie, qu'est-ce que c'est? Dans le sang, vous avez des globules rouges, des globules blancs, des plaquettes et du plasma. Dans ce plasma, vous avez naturellement des immunoglobulines qui servent à vous défendre contre n'importe quelle infection. Dans la gammapathie monoclonale, vous avez une production anormale d'immunoglobulines en quantité trop importante et surtout de mauvaises immunoglobulines qui peuvent vous rendre malade et aboutir à notamment un myélome. On sait que ces patients qui sont atteints de gammapathie monoclonale vont faire des complications notamment infectieuses. Mmh. Elles vont faire des surinfections bronchiques, pulmonaires et parfois en décéder. Raison pour laquelle normalement il faut se vacciner contre la grippe, contre le pneumocoque et donc contre la Covid. Il est impératif de se faire vacciner et les vaccins à ARN, Pfizer et Moderna sont totalement possibles quand on a une gammapathie monoclonale et c'est même plutôt recommandé. En revanche, qu'on peut proposer lorsqu'on a un traitement, c'est d'interrompre si possible le traitement quelques jours avant, se faire vacciner et ne pas reprendre le traitement dans
tout
la foulée.
Suite, ouais.
C'est l'association notamment pour le myélome qui propose ça. Moi, je vous recommande d'en parler avec votre médecin pour vous faire vacciner, car si vous êtes éligible, c'est le moment d'y aller.
Alors justement, on va repréciser une nouvelle fois, Jimmy, parce qu'on a de nombreuses questions en ce moment sur est-ce que c'est normal, enfin c'est normal d'ailleurs, hein, sur la vaccination, ses contre-indications, etc. La vaccination Covid, c'est quoi véritablement à ce jour les contre-indications formelles pour cette vaccination?
Mais il n'y en a pas, à part d'être enceinte. Parce
allergie
que...
très grave, non?
Oui, si vous avez des antécédents d'allergie, on va vous surveiller un peu plus que les autres. Et si vous avez effectivement une allergie authentique grave avec un des excipients du vaccin, effectivement, c'est
là,
compliqué.
Okay.
Mais ça va concerner peut-être peut-être une personne en France ou deux, et encore, on n'est pas sûr. En revanche, la seule chose dont on a besoin de savoir, c'est un, si vous avez eu le Covid il y a moins de 3 mois, parce que dans ces cas-là, il faut qu'on décale un petit peu la vaccination, et deux, surtout, si vous êtes enceinte, puisque pour l'instant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, ça n'a pas été testé chez la femme enceinte, et puis on vérifie quand même que vous n'êtes pas malade, que vous n'avez pas de température, et que vous n'êtes pas
qu'à contact au moment
c'est
ça,
de l'injection. Mais c'est un truc hyper simple, on l'a trop compliqué, cette histoire de vaccination, ça marche très bien, les gens sont très contents, et les effets secondaires sont acceptables quant aux bénéfices par rapport aux bénéfices du vaccin.
Et puis Jimmy, on va le rappeler pour les gens qui sont inquiets, qui ont des questions très particulières parfois hein, vis-à-vis de leur propre risque individuel. On peut les rassurer, on ne vaccine pas les gens à la chaîne, il y a toujours un interrogatoire avant. Ce n'est pas allez hop, on pique, tout le monde passe par la case, on pose des questions avant.
Peut-être on pose même un peu trop de questions. Honnêtement, quand je fais l'interrogatoire, ça va très très vite puisque globalement, on sait qu'il y a très peu de contre-indications. Et même les patients qui sont sous anticoagulants, on leur propose simplement de faire un petit pansement compressif. Donc quasiment aucune contre-indication à se faire vacciner. Au contraire, il faut y aller. Si vous avez des questions, n'allez pas sur Google, demandez conseil à votre médecin traitant, à votre spécialiste. Souvent, ils ont les bonnes réponses aux craintes que vous pouvez avoir.
Très bien, Jimmy. Merci beaucoup. Alors, si vous voulez, vous aussi, nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé, Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors accueillons tout de suite notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, docteur Jacques Fricker, bonjour.
Bonjour Mélanie.
Vous êtes médecin nutritionniste à l'hôpital Bichat à Paris et vous êtes le co-auteur avec le docteur Assiag du livre Prenez votre cœur à cœur, qui est paru chez Odile Jacob. Alors c'est ce qu'on va faire cet après-midi avec vous. Vous allez nous expliquer comment protéger notre cœur du point de vue de l'alimentation. Justement, depuis quand on s'est rendu compte finalement que ce qu'il y a dans notre assiette, finalement, ça a un lien avec notre santé cardiovasculaire.
Ça date des années 50. De la comparaison par l'équipe de Hansel Case, un chercheur américain, de 7 pays, 7 régions du monde. Il y en avait 3 en Méditerranée. Il y avait Corfou, il y avait la Crète. Ça fait 2, en fait. Il y avait le Japon, il y avait la Finlande, et il y avait des pays du Nord. Donc. Et en fait, ce qu'on a retrouvé, c'est qu'il y avait une mortalité nettement abaissée dans les pays méditerranéens, nettement par rapport au reste. Donc là, on s'est dit, il y a sans doute quelque chose de géographique. Et puis, on est allé plus loin. Il y a eu des études en France, notamment par Serge Renaud et Michel Delorgeril, qui a étudié le rapport entre alimentation crétoise et maladie cardiovasculaire en France, qui a retrouvé également l'impact. Il y a eu de multiples études en Amérique, en Europe et ailleurs, au Japon, qui ont montré petit à petit quels sont les aliments qui protègent, quels sont ceux qui n'ont pas d'effet, et quels sont ceux qui sont néfastes. Et en fait, il y a de multiples façons de bien manger. C'est ce qu'on a essayé de montrer dans ce livre. Prenez votre cœur à cœur. Il n'y a pas un seul régime. Mais il faut savoir bien choisir ses aliments et bien composer ses repas pour avoir une bonne santé cardiaque.
Et justement, quand on a commencé à comprendre qu'il y avait un lien entre l'alimentation et la façon de protéger son cœur ou ses artères, on a identifié un des premiers régimes, le régime DASH. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est, en quoi ça consiste ?
Alors, le régime DASH, ça a été au départ créé pour baisser l'hypertension artérielle et notamment en baissant la consommation de sel. Parce que quand
on mange très salé, sont les cardiologues américains qui l'ont
voilà,
mis au point.
Les cardiologues américains. Qui a mis ça au point. Donc, ça voulait faire baisser le sel pour espérer baisser la tension artérielle et baisser les problèmes coronariens et surtout les problèmes d'accident vasculaire cérébral très liés à l'hypertension. Mais les Américains n'ont pas fait que ça. Ils ont également donné des aliments riches en potassium, parce qu'au niveau du rein, c'est l'équilibre sodium, donc trop de sel, mais également potassium, quand il n'y en a pas assez, qui nuit à la tension. Donc, on a conseillé aux patients de manger beaucoup de fruits et légumes. On a également conseillé de manger des aliments riches en magnésium, comme les légumes secs, les lentilles, les pois chiches, et les aliments céréaliers complets, pain complet, pâte complète. Des produits laitiers, il y avait également des produits laitiers pour le calcium, et il y avait peu de graisse animale. Alors ça a fait baisser la tension artérielle.
Les résultats ont été assez spectaculaires, oui, hein, en tout cas sur l'objectif premier de la pression artérielle.
Alors, d'abord sur la tension artérielle, mais
pas que.
Peut-être que ça avait qu'un effet sur la tension. On a vu que ça baissait également le mauvais cholestérol, ça baisse les risques de diabète, et surtout, au bout de 3-4 ans, on a vu que ça baissait les risques cardiaques. Donc non seulement ça agit sur la tension, mais également ça baissait le risque d'accidents vasculaires cérébraux d'environ 15-20%. Et également, bonne surprise, les risques coronariens, les maladies coronariennes, c'est l'infarctus du myocarde, c'est la crise cardiaque. Donc c'était une super bonne nouvelle.
Et est-ce que c'est un régime que vous prescrivez encore aujourd'hui, puisqu'on a l'impression que personne ne le connaît, on parle beaucoup
de
régime
ouais, les médecins,
mais
peut-être. Mais
est-ce que c'est quelque chose qu'on pratique
en fait,
courant, vous faites
personnellement, en consultation, je ne donne pas un régime DASH ou un régime méditerranéen. Je prends d'abord le temps d'écouter mon patient, de savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, quelles sont ses habitudes de vie, deux repas, trois repas, quatre repas par jour. Et à partir de là, je lui compose une alimentation adaptée à son cas, qui ne va pas être la même que celui d'à côté.
Il a ses goûts aussi, sûrement.
À son cas, à ses goûts, bien sûr. Oui, à son cas, c'est au sens large, effectivement, à ses goûts, à ses habitudes. Mais il y aura toujours un fondamental d'aliments riches en d'aliments d'aliments d'origine végétale en grande quantité, notamment donc les féculents, les lentilles, les légumes secs, tout ce qui est légumes et fruits. Une petite quantité aussi de produits d'origine animale qui donne un plus, volailles notamment et poissons, des bonnes huiles, huile d'olive, huile de colza, et puis il y a les bonnes boissons aussi dont on pourra parler.
À l'inverse, il y a d'autres approches, hein, comme le régime anti-cholestérol, là, qui est un régime en gros moins de viande rouge, moins d'œufs, qui lui n'a pas été couronné de succès.
Oui, hein. En fait, quand on agit seulement sur un des éléments de la nourriture, ça ne marche pas. Ouais. Si vous voulez dire « je ne veux que faire baisser le cholestérol, le reste, je m'en fiche », eh bien, on est très déçu. On fait baisser le cholestérol, pas beaucoup, mais on le fait baisser.
On ne protège pas tant le cœur que ça, en général. Ouais.
Il faut vraiment avoir une approche pluridimensionnelle. Ce n'est pas seulement des aliments qui vont baisser la tension, qui vont faire baisser le cholestérol, mais également des aliments qui vont directement protéger le cœur. C'est pour ça qu'au Japon, les gens, même quand ils ont beaucoup de cholestérol, et les Japonais, même quand ils ont une tension artérielle élevée, ils ont moins de risques cardiaques que les Américains parce qu'ils mangent plus d'aliments protecteurs.
Et en France, la star du régime, ou en tout cas du mode de vie, c'est le régime méditerranéen. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les grandes lignes de ce régime ?
Le régime méditerranéen, parmi les bons régimes pour le cœur, c'est celui qui est le plus proche de nos habitudes. Ouais. En fait, il y a une quantité de fruits et de légumes importante, c'est-à-dire qu'il va y avoir un plat de légumes au moins à chaque repas, que ce soit l'entrée, un potage, des crudités, au plat principal, ou pourquoi pas la salade avec le fromage. Dans ce régime méditerranéen...
De l'huile d'olive. Moi, je dis ça parce qu'on retient absolument. Ça souvent. Mais...
Au niveau de l'huile, c'est l'huile d'olive qui est bien équilibrée en acides gras monoinsaturés et qui est surtout très riche en polyphénol, des molécules qui sont directement protectrices sur le cœur. Mais il faut prendre une huile d'olive vierge, extra, et en général, d'ailleurs, c'est le cas.
Est-ce que si on se fixe... on n'a pas le temps forcément de détailler tout le régime méditerranéen. Ouais. Les gens vont retrouver des éléments même en cherchant un petit peu. C'est facile. Mais est-ce que si on se fixe ça, l'objectif, c'est manger méditerranéen, on a toutes les chances, bien portant ou en mauvaise santé, de protéger son cœur.
On a toutes les chances de bien protéger son cœur, ne pas oublier le poisson aussi, et le vin dont on pourra reparler si vous voulez.
Alors justement, vous en avez un tout petit peu parlé, il y a un paradoxe japonais. Les Japonais ont une des mortalités de maladies cardiovasculaires les plus faibles au monde, mais pourtant ils ont beaucoup d'hypertension artérielle. Comment on explique cette différence entre beaucoup d'hypertension et finalement on ne meurt pas beaucoup de cette hypertension ?
Enfin, ils ont quand même pas un taux assez élevé d'accidents vasculaires cérébraux, plus qu'en Méditerranée, mais ils ont par contre très peu de problèmes coronariens parce qu'ils prennent des poissons riches en oméga-3. Ils prennent du thé vert. Le thé vert, une tasse de thé vert diminue le risque cardiaque d'environ 4%.
Par jour, hein, c'est ça ?
Par jour, une tasse de thé vert par jour. Donc deux tasses, ça fait à peu près 10%.
Mais ils consomment trop de sel, c'est ça qui peut expliquer l'hypertension et les AVC ?
Ouais. Absolument, ça explique qu'il y a quand même un taux assez élevé d'accidents vasculaires cérébraux. Et ils consomment peu de viande rouge, mais ils en consomment quand même un petit peu, mais pas beaucoup. Et ils consomment beaucoup de fruits et légumes également. Il y a le soja également qui intervient, mais surtout chez les femmes. Le soja est peu protecteur chez l'homme japonais, mais plus chez la femme.
Mais malgré le trop de sel et de tabac aussi, hein, parce que bon, même si les choses s'améliorent, ils ont beaucoup, c'est une population dans laquelle il y avait beaucoup de tabagisme, ils ont quand même une espérance de vie record, les Japonais. Pour expliquer ça, donc, d'accord, il y a le poisson, vous en avez cité quelques exemples, mais il y a aussi peut-être un facteur génétique.
En fait, non, parce que quand un Japonais va vivre à Honolulu ou en Californie, quand il prend les habitudes californiennes, eh bien, son taux de mortalité augmente comme celle des Américains. Donc c'est ce qui a montré, c'était une hypothèse, peut-être que c'est génétique. Mais en fait, quand les Japonais viennent et mangent à l'occidental, là, ils ont une mentalité qui augmente.
D'accord. Docteur Fricker, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors notre invité, il est toujours en studio avec nous, c'est vous, docteur Jacques Fricker. Vous êtes médecin nutritionniste à l'hôpital Bichat à Paris et vous êtes le co-auteur du livre « Prenez votre cœur à cœur » qui est paru chez Odile Jacob. Alors on en a parlé juste avant du paradoxe des Japonais qui ont une santé cardiovasculaire étonnante pour de multiples raisons et notamment grâce à leur façon de se nourrir, on en a parlé juste avant. Un autre allié du cœur des Japonais, vous l'avez un petit peu amorcé tout à l'heure, c'est le thé vert, une tasse minimum par jour, hein, c'est ce que vous disiez. Mais par quel mécanisme ce thé vert, il agit sur notre cœur et nos artères ?
Le thé vert contient des flavonoïdes qui ont un rôle qui est antioxydant, antithrombotique, donc ça réduit les risques de thrombose, les risques de caillot dans le sang, et ça réduit les risques de vieillissement de l'artère, comme c'est antioxydant, ça réduit également l'inflammation, c'est anti-inflammatoire, et c'est le cas de pratiquement la plupart des végétaux d'ailleurs, agissent comme ça. Du coup, ça réduit le risque d'inflammation qui, là aussi, bouche les artères. Mais attention, il y a également des extraits de thé vert, des pilules de thé vert que vous pouvez acheter. Alors là, il n'y a pas d'effet.
Ah,
il n'y a pas d'effet bénéfique.
Boire,
c'est vraiment
thé,
la boisson qui intervient. Il y a même un risque d'hépatite. Et on trouve la même chose avec les oméga-3. Les oméga-3 dans les poissons...
Un risque d'hépatite avec les gélules, c'est ça, vous dites ?
Avec les gélules
de
thé vert.
Ouais.
Avec les oméga-3, les gélules d'oméga-3, vous n'avez pas de risque d'hépatite. Mais autant le poisson gras protège le cœur, autant on est très déçu quand on a fait des études avec des comprimés riches en oméga-3, il n'y a pas d'effet. Donc c'est vraiment l'aliment lui-même qui est intéressant. On ne peut absolument pas remplacer les qualités de l'aliment par une gélule. C'est vraiment bien manger qui est important.
Et donc là, c'est le bien boire, puisqu'on parle de thé vert
là,
pour l'instant,
bien
mais bien boire. Donc boire le thé et pas le manger en gélule, hein, donc on a compris. Mais vous disiez tout à l'heure, les Japonais, s'ils se mettent à manger comme nous, ils viennent dans d'autres pays, ils perdent leurs bénéfices, on va dire, de ce qu'ils mangent quand ils sont au Japon.
Ouais.
Mais nous, si on se met à manger du thé vert, c'est prouvé que chez la population française, ça va nous faire du bien ?
Oui, alors non, les études ont été faites plutôt au Japon. Ça va faire le thé vert va peut-être réduire légèrement le risque cardiaque. Mais vous savez, le café aussi.
Ouais.
Le café réduit le risque cardiaque d'environ 10%, ce qui est important, réduit les risques de diabète d'environ 30%. Donc, il n'y a pas que les thés verts si on préfère boire du café. 2-3 tasses de café, sauf en cas de tachycardie ou de troubles du rythme cardiaque,
ça
c'est bénéfique également pour le cœur.
Il y a aussi, à cette période, le chocolat noir, peut-être est riche aussi en flavonoïdes.
Oui,
donc,
absolument.
Jimmy en a mangé beaucoup ce week-end, donc il aimerait bien savoir s'il a bien fait du bien à son cœur.
C'est ce qu'on a appelé dans le livre une divine surprise du chocolat. Parce que manger une tablette de chocolat noir par semaine...
Ah, j'allais dire par jour, moi ça me va, hein, c'est
réduire,
super.
En fait, au-delà, ça augmente pas les bénéfices.
Une par semaine alors.
Une par semaine, ça réduit effectivement les risques de maladies cardiaques grâce aux flavonoïdes. Donc c'est intéressant, mais attention, le chocolat noir, 70% de cacao ou plus, les barres chocolatées où il y a très peu de cacao et
j'en
beaucoup,
eu beaucoup
d'aliments, d'autres
jardin,
aliments pas très
week-end.
Intéressants, voire dangereux, comme l'huile de palme, les acides gras trans ou autres,
ouais.
Ça c'est péjoratif.
Donc c'est chocolat noir. On va passer à présent au régime végétarien, ils sont très à la mode, mais est-ce qu'on peut dire qu'ils protègent notre cœur d'un point de vue général, même s'il y en a plusieurs types hein, de régime végétarien, on n'a pas forcément le temps de les détailler. Que disent les études en tout cas ?
En fait, ça protège le cœur, mais pas les artères.
D'accord.
À la différence, je vous rappelle, du DASH et du méditerranéen,
qui protègent les deux.
Mmh. Donc le cœur n'est pas les artères. Pourquoi ? D'abord, il y a des carences à certains régimes végétariens, carences en vitamine B12, il n'y a pas d'oméga 3 parce qu'il n'y a pas de poisson, c'est un peu dommage. Et par ailleurs, on peut manger végétarien et manger mal.
Ouais.
Si vous mangez végétarien, mais des aliments ultra transformés, des galettes de riz, des galettes de maïs,
des steaks de soja,
des steaks de soja qui sont une absurdité totale. Soit on mange de la viande, pas trop de viande rouge et plus de la volaille, soit on mange des légumes secs, mais des vrais légumes secs. Si on commence à transformer les légumes secs et la céréale en steak, il va y avoir des intrants, il va y avoir un aliment transformé qui va être beaucoup moins bon pour le cœur.
Et ça, ça va boucher les artères aussi, en fait, c'est ça ?
Disons que ce n'est pas optimal.
D'accord.
Il faut vraiment essayer de manger le plus simple et le moins transformé par l'industrie. Il faut y arriver à faire une cuisine d'assemblage chez soi.
Mais ça veut dire que si on tente un régime végétarien, mieux vaut être accompagné sur le plan médical, on évite de faire sa cuisine
un peu
seule.
Oui, il vaut mieux être accompagné, c'est-à-dire faire une consultation ou deux chez un médecin généraliste qui connaisse bien la nutrition ou chez un médecin nutritionniste. Et après, ce n'est pas très compliqué. Et après, vous allez voguer tout seul.
Et ça ne protège pas le cerveau aussi, le régime
non,
végétarien.
Non, ça ne protège pas le cerveau, sans doute. Parce qu'il y a, pas, il y a parfois un manque de vitamine B12.
Vous dites qu'ils pêchent pour certains par leur rigorisme, justement, sur ce manque de protection cérébrale.
Oui, parce que c'est vrai, l'humain est omnivore. L'alimentation optimale est omnivore. Et même les Japonais qui mangent peu de produits laitiers, quand ils mangent un peu de produits laitiers, ils ont encore plus de protection. Vous voyez, c'est vraiment une alimentation, manger de tout. Alors manger de tout, ça ne veut pas dire manger un peu de chaque chose. Il y a des aliments dont il faut manger en grande quantité, les aliments d'origine végétale. C'est ce qu'ont fait les végétariens. Mais malheureusement, ils se privent souvent de produits laitiers, de poissons, de sélénium et de zinc qui sont ou de fer contenus dans la viande, dans les volailles. Et là aussi, donner des comprimés, ce n'est pas comme le vrai aliment.
Ouais.
Alors une autre tendance en ce moment, c'est le jeûne, qu'il soit intermittent ou total. Est-ce que pour notre santé, on peut espérer des bénéfices de jeûne ?
Alors le jeûne total, sûrement pas. Il y a même un risque d'arrêt cardiaque.
Ah oui, on va carrément,
d'arrêt cardiaque.
Le cœur s'arrête si on ne mange pas,
au bout
pas pendant plusieurs jours.
Absolument. Jeûner une journée par semaine, ça n'a aucun intérêt, mais ça n'a pas d'inconvénient particulier. Le jeûne intermittent, c'est souvent proposé pour maigrir. Alors au début, ça fait maigrir parce qu'on mange moins.
On rappelle ce que c'est, ça peut être en gros sauter un repas dans la journée, par exemple le petit déjeuner. Hein,
par exemple, on mange à midi et le soir et pas le matin.
Donc au moins 16 heures, on n'est pas alimenté.
Pas dangereux, on ne risque pas de mourir pour ça. Mais on va augmenter l'insuline, donc on augmente les risques de diabète, on augmente le mauvais cholestérol, on augmente les transaminases qui sont un reflet de souffrance du foie. Et surtout, à long terme, on augmente son poids parce qu'il a bien été montré qu'à calories égales, on maigrit plus facilement si on fractionne dans la journée, plutôt que si on mange concentré. Alors, si c'est la seule façon de moins manger pour quelqu'un, le jeûne intermittent, ça va être une solution. Mais si on préfère manger 3 ou 4 repas par jour, il vaut beaucoup mieux continuer à prendre 3 ou 4 repas par jour, voir un médecin nutritionniste si on a besoin de maigrir pour adapter les quantités, que manger 2 fois par jour.
C'est quand même dur à comprendre pour les patients, puisque si on se dit je saute un repas, le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner, vous nous dites que pour notre santé, ce serait pire que de manger,
oui,
en fait.
Parce que c'est pire parce qu'en fait, on augmente l'insuline. Quand on mange à calories égales, si on mange groupé sur deux repas, vous allez avoir un taux d'insuline qui va être augmenté par rapport au fait de le fractionner. Donc c'est moins favorable. Mais on peut manger équilibré et ce n'est pas très dangereux. Donc si on aime manger comme ça, il vaut mieux là aussi voir un spécialiste une fois ou deux pour être bien calé. Mais on peut très bien faire deux repas par jour sans que ça mette en danger sa santé. Ce n'est pas optimal, mais ce n'est pas dangereux.
Je reviens sur le jeûne total, pour le coup, les gens qui vont se priver de nourriture, donc pour des raisons éthiques ou de santé, peu importe. On sait que quand on est trop gros, on a tendance à faire du mal à ses artères. Donc un jeûne, moi j'imagine, je parle basique, on va dire, qui va nous faire perdre, admettons, 6 kilos en une semaine, parce qu'on perd beaucoup de poids quand on fait ce genre de stage ou de pratique. On pourrait imaginer que c'est un moyen rapide de faire du bien à son cœur, non ?
Ce qui est dangereux dans l'obésité, ce n'est pas le poids, c'est l'excès de graisse.
Ouais.
Et quand vous faites un jeûne total, vous perdez la moitié des kilos perdus, c'est du muscle. Et c'est également de la masse cardiaque, c'est également du rein qui va diminuer. Donc, ce n'est pas si bon que ça pour la santé parce que vous ne perdez pas que de la graisse. On peut faire un jeûne qu'on appelle protéiné, où on va garder des protéines, garder du poisson, de la viande, des légumes, des œufs, arrêter ou réduire le reste. Ça, c'est envisageable quelques semaines, mais pas un jeûne total.
Très bien. Docteur Fricker, ne bougez pas, on va continuer cet entretien dans quelques minutes.
Retour dans Sans Rendez-vous avec Cyclamed, qui valorise les médicaments non utilisés rapportés en pharmacie.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans Sans Rendez-vous et il nous accompagne toujours cet après-midi. C'est vous, docteur Jacques Fricker. Je rappelle que vous êtes médecin nutritionniste à l'hôpital Bichat, à l'assistance publique hôpitaux de Paris. Alors, on prend soin de notre cœur aujourd'hui avec vous, mais via ce que l'on met dans notre assiette. Et on va passer justement à ces aliments en particulier qui ont un rôle protecteur démontré. On va commencer, on en a déjà un petit peu parlé, par les fruits et les légumes. Alors ok, on le sait, les fruits et les légumes nous font du bien de façon même globale, mais concrètement, comment ils protègent notre cœur et même notre cerveau? Par quel mécanisme?
En fait, ils protègent le cœur et le cerveau parce qu'ils baissent la tension artérielle. Ils baissent également le mauvais cholestérol, le LDL cholestérol. Ils baissent le risque de diabète. Ils sont également riches en molécules des vitamines, des minéraux et des polyphénols, qui ont un rôle anti-inflammatoire, antioxydant, et tous ces mécanismes, l'oxydation et l'inflammation, et la thrombose, parce qu'ils ont également un rôle antithrombotique contre les caillots, eh bien, ils luttent contre les mécanismes qui favorisent le fait que les artères se bouchent. Donc, ça débouche les artères, en quelque sorte.
D'accord.
Alors, fruits et légumes, ça veut dire qu'on aurait intérêt à manger à peu près 5 parts par jour. Effectivement,
c'est
le slogan, mais c'est un très bon slogan. Et en fait, une part, ça fait à peu près 100 grammes. Ce n'est pas 5 fraises. C'est, par exemple, une pomme, un bol de fraises, une assiette de potage, une assiette de crudité et une assiette de légumes cuits.
C'est des portions plus que le fruit en lui-même ou le légume.
5 portions, alors ça peut être parfois 4,
parfois 6. Parce qu'une aubergine, par exemple, c'est un gros morceau, quoi. C'est un gros légume. Mais
oui, c'est pas la tête de l'aubergine, oui, mais c'est un gros légume. C'est une assiette de légumes, c'est une part de légumes.
Si on en mangeait 10, par exemple, un jour et 0 le lendemain, est-ce que du coup ça fait 5? Parce qu'on dit 5 par jour.
C'est moins favorable parce qu'en fait, on a besoin d'avoir un apport régulier de ces vitamines et de ces polyphénols. Si vous faites un mois avec légumes et fruits, un mois sans, par exemple, ou même un jour, ça sera moins favorable que si c'est régulier. C'est même encore mieux s'il y en a à chaque repas. Ça a été démontré également, par exemple, pour les noix. Ce genre de protection qui est meilleur quand on le répartit.
Alors, quand on parle des fruits et des légumes, les fruits, on voit à peu près ce qu'on doit prendre. Les légumes, c'est parfois un peu plus compliqué. S'il y en avait 3 à proposer, lesquels on devrait tous mettre dans notre assiette?
Jimmy mise sur 3 parce que 5 ça lui paraît beaucoup.
Ouais,
donc,
trop,
il veut déjà les trois préférés.
Je dirais d'abord pour la vitamine B9 et les légumes à feuilles foncées vertes, comme les épinards, les salades style roquette, mâche.
Plus c'est foncé, mieux c'est, quoi.
Il vaut mieux une salade foncée qu'une salade toute blanche ou trop claire. C'est une première chose. Deuxièmement, j'aurais dit les tomates, parce que c'est facile, c'est simple à consommer. Souvent, les enfants aiment bien aussi. Et c'est riche en lycopène. Alors, les lycopènes, ça intervient surtout au niveau de la protection de la prostate, mais c'est quand même un polyphénol, là aussi, intéressant. On pourrait dire la carotte pour les bêta-carotènes, en sachant que l'intérêt de la carotte, comme de la tomate, ça peut se manger cru ou cuit. Et il y a des personnes qui préfèrent des légumes cuits, d'autres crus. C'est bien d'avoir les deux, en fait.
Pour notre cœur, en tout cas, ces trois-là, c'est déjà un bon départ.
Oui, mais en fait,
sûr,
si on
n'aime
pas
ceux-là,
on en prend
voilà,
d'autres.
Ouais,
les aubergines, c'est très bien. Les courgettes, c'est très bien. C'est vraiment, il faut prendre globalement des fruits et des légumes.
Pour les fruits, justement, alors on va pas forcément les citer, mais est-ce que si je les consomme en smoothie ou en compote, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas mâcher les fruits,
c'est pas pareil.
Le bénéfice ne sera pas le même.
Parce qu'il y aura une assimilation trop rapide des vitamines, des minéraux et surtout des glucides, des sucres, ce qui n'est pas très bon pour le cœur et pas très bon d'ailleurs pour le poids, pour le diabète. Donc, il vaudrait mieux manger un fruit, éventuellement, ou même, pourquoi pas, manger un fruit style cuit, style une pomme au four ou une pêche pochée. Mais il vaut mieux ne pas la broyer, ne pas la mixer. Ça sera mieux pour votre poids, mieux contre le diabète et mieux pour le cœur que de le mixer.
Alors, vous en avez un tout petit peu parlé, les noix et autres fruits à coque, ils sont vraiment bons pour notre cœur, mais à quel point il faut manger combien ?
Les fruits et les légumes agissent surtout sur le cerveau. D'accord. Pas tellement sur le cœur, mais sur le cerveau. En revanche, tout ce qui est fruits à coque, noix, noisettes, amandes, et surtout les noix grâce à leurs oméga-3, réduisent le risque cardiaque d'environ 20-25% grâce à leurs bons acides gras, au magnésium, à des molécules également qui dilatent les petits vaisseaux du cerveau et les petits vaisseaux un peu partout, et du cœur.
Donc tous les jours, hein, ça, pour le coup, il faut en manger.
Il vaut mieux en manger tous les jours.
Ça ne fait pas un peu grossir, c'est gras quand même, les noix et tout ça, non ?
Il faudrait en manger entre 6 cerneaux de noix ou 6-7 amandes jusqu'à 10-12
par jour,
vous voyez. Ça peut être plus. Si on n'a pas de problème de poids, il n'y a pas de limite. Et alors, il y a des gens qui sont allergiques, donc on peut quand même se protéger sans les fruits à coque. Mais ce sont vraiment des fruits extrêmement intéressants et par rapport au poids, ça rassasie bien. Ce sont
un peu coupe-faim,
donc quand on a une fringale, prendre quelques noix ou prendre un fruit frais plus des noix ou par exemple dans une salade, c'est très bien aussi.
Double effet quoi, un peu coupe-faim et en même temps c'est bon pour le cœur.
Et intérêt également de ne pas les griller, de ne pas les saler et de garder la peau. Parce que la peau est protectrice pour les molécules.
Ah oui, c'est vrai que les amandes, on les voit pelées parfois, mais il vaut mieux qu'elles soient marron quoi.
C'est
la peau, d'accord.
Alors du côté des féculents, est-ce que si on mangeait des pâtes et du riz, ce serait pas mal pour notre santé ?
Alors, dites
oui, parce que sinon...
Il vaut mieux avoir des aliments, des féculents qui soient lentement assimilés. Qui soit lentement digéré, aussi bien dans la prévention du diabète, dans la prévention de l'obésité, dans la prévention des problèmes cardiaques.
C'est lesquels alors ?
Ce sont les pâtes de blé dur, si possible complètes, ou alors si
elles
sont blanches.
Parce que complètes, moi je trouve pas ça très bon.
Semi-complètes, c'est bien
aussi,
mais même blanches, mais il faut mieux les cuire al dente. Mm-hmm.
Donc pas trop cuites, quoi.
Pas trop cuites. Dans le riz, il y a deux riz qui sont plus protecteurs, enfin qui sont plus intéressants que d'autres, c'est le basmati et le riz complet, qui ont un index glycémique plus bas. Des stars, ce sont également les légumes secs, stars du cœur pour protéger le cœur. Les lentilles, les pois chiches, les flageolets, l'haricot blanc, l'haricot rouge, les pois cassés, ça c'est vraiment excellent, même en conserve.
D'accord, même pour le cœur, donc c'est intéressant.
Ça réduit le risque cardiaque de 20%, donc c'est vraiment extrêmement intéressant.
En revanche, dans votre livre, moi j'ai appris un truc, vous dites, bon, les pâtes et le riz, plutôt en version complète, c'est mieux, mais si vous les mangez blanches, donc pas trop cuites. Par contre, surtout éviter les pâtes et riz dits à cuisson rapide, on en voit partout au supermarché maintenant, en 3 minutes c'est prêt. Pour quelles raisons faut éviter ?
Mais parce qu'en fait, là, c'est transformé là aussi par l'industrie pour être cuit plus vite et on change la structure de l'amidon. Ce qui fait que l'amidon, au lieu d'être un sucre lent, il va être un sucre rapide, donc mauvais pour le cœur.
C'est pratique pour les enfants, pourtant ça va vite quand ils ont faim.
Une fois, on a vraiment acheté les aliments, souvent les moins chers d'ailleurs, mais les plus simples, les moins transformés, où il y a le moins de rajout par l'industrie.
Et du côté des huiles, de la margarine, du beurre, des crèmes,
ça vous plaît, Jimmy, le gras, allez, le gras.
Ah oui, parce qu'on a besoin de gras, lesquelles faut privilégier pour notre cœur ?
Alors, il y a trois huiles les plus intéressantes, ce sont l'huile d'olive, donc le régime méditerranéen, l'huile de colza et l'huile de noix, car elles sont toutes les deux riches en oméga 3.
Il faudrait manger un peu des trois, quoi, c'est ça, consommer un peu des trois.
Si on mange souvent des poissons gras, on n'a pas besoin d'huile de colza.
D'accord.
Donc l'huile d'olive est assez remplaçable. Mais pour les végétariens qui ne mangeraient pas de poisson, ou pour les personnes qui n'aiment pas le poisson, huile de colza, huile de noix, ce sont des huiles très intéressantes grâce à leurs oméga 3.
Puisqu'on parle de l'intérêt là des huiles pour notre système cardiovasculaire, quid alors des margarines, etc., qu'on voit en supermarché, anti-cholestérol, etc., soi-disant peut-être meilleur pour notre cœur. Vous conseillez ce type de produit, non ?
C'est beaucoup moins intéressant que l'huile d'olive pour le cœur. Par rapport au beurre, ça n'a pas vraiment démontré d'efficacité sur le cœur. Ça baisse le cholestérol, mais il n'a pas été démontré pour l'instant que ça baisse les problèmes cardiaques.
Donc on ne doit pas tous se jeter sur ce genre de produit.
Moi, personnellement,
en tout cas,
je ne les conseille pas. C'est presque que je les déconseille d'ailleurs. En tout cas, je ne les conseille pas. Je conseille plutôt de prendre des vrais aliments, des aliments basiques, huile d'olive, huile de colza, huile de noix, et de prendre sur les tartines, par exemple, du matin, du vrai beurre.
Un mot à propos des œufs. Certains disent qu'ils sont trop riches en cholestérol et on voit d'ailleurs certains sportifs privilégier le blanc et jeter le jaune.
Dommage, c'est le meilleur, moi je trouve.
Alors c'est vrai que le jaune d'œuf est riche en cholestérol, Mais en fait, les études, notamment les études de l'équipe de Harvard à Boston, qui est une des meilleures équipes en nutrition au monde, ont montré qu'il n'y a pas de risque coronarien de manger souvent des œufs 5, 6, 7 fois par semaine, par exemple.
Oui, tant que ça, quand même. Hein, ouais.
Tant que ça, sauf chez le diabétique. Mmh. Donc, en cas de diabète, en cas également de certaines hypercholestérolémies, quand de façon génétique, on a trop de cholestérol, là, il vaut mieux limiter à 3-4, sinon pas de problème pour l'œuf.
Un dernier petit conseil pour terminer, pour chouchouter notre cœur. Dans votre livre, vous dites « manger aillé ». Pourquoi ?
Alors l'ail c'est riche en molécules qui là aussi sont protèges, sont antithrombotiques et stimulent l'immunité. Donc c'est un des éléments bons pour le cœur, comme la plupart des épices aussi, ou le vinaigre aussi est intéressant.
Très bien, merci beaucoup Dr Fricker d'avoir été avec nous cet après-midi.
Merci
pour ceux
vous.
Qui voudraient donc en savoir plus. Il y a encore un tas de conseils dans votre livre, prenez votre cœur à cœur, qui est paru donc chez Odile Jacob. Merci encore.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. À présent, il est temps de soigner votre apparence avec la routine beauté de Benjamin Lévesque, qui chaque lundi nous donne donc toutes ses meilleures astuces pour avoir une belle peau, de beaux cheveux. C'est au choix, Jimmy. Hein, vous préférez quoi, vous, les cheveux, la peau?
Non, moi, c'est la barbe.
La barbe, ok. Mais ça sera une prochaine
c'est
fois.
Voilà. Au revoir.
Alors aujourd'hui, est-ce qu'il va nous parler des produits pour la barbe? Je ne sais pas, Jimmy. En tout cas, Benjamin va nous parler des produits cosmétiques qui ont donc une durée limité.
Mais oui, comme la nourriture, il y a une date de péremption. Mais pas de panique, tout est indiqué sur l'emballage du produit. La première chose, c'est la DLUO, la date limite d'utilisation optimale. C'est souvent marqué à utiliser de préférence avant le suivi d'une date. Et la deuxième chose, c'est la PAO, la période après ouverture.
P-A-O.
Si vous regardez bien, vous avez un petit dessin d'un pot qui est ouvert sur lequel il est par exemple marqué 6 M, eh bien ça veut dire qu'une fois qu'il est ouvert, vous allez pouvoir l'utiliser 6 mois maximum. Alors si jamais vous avez perdu l'emballage, parce que ça arrive, je vous propose d'écouter les conseils d'Anne-Marie Gabellica, la fondatrice de la marque Olution.
Les produits qui se périment le plus vite, ce sont des mascaras, des eyeliners, parce qu'ils sèchent très vite. Les produits en revanche, par exemple des soins pour le visage, peuvent se garder classiquement plus de 30 mois sans aucun problème. Tout ce qui est également soins corps, et le plus long, les produits qui sont vraiment que vous pouvez conserver au-delà de 3 ans facilement, ce sont les shampoings et les gels douche.
Et qu'ils soient à base d'eau ou d'alcool, la plupart des cosmétiques contiennent des conservateurs, comme nous le rappelle la docteure en pharmacie, Lucille Bataille.
Un conservateur, ça va être une molécule qui peut être d'origine naturelle ou synthétique et qui va protéger la crème contre la contamination bactérienne et fongique. Quand on met son doigt dans son pot ou quand on ouvre même un flacon, en fait, il va être au contact de l'environnement et dans l'air, il y a des bactéries, des champignons. Et certaines peuvent contaminer le produit et donc ça peut être risqué ensuite de s'appliquer à un produit qui a été contaminé puisque ça peut causer des dermatoses en fait, au niveau de la peau.
Et Benjamin, c'est quoi le risque si, comme Mélanie Laradine, elle utilise les produits au-delà de la date de péremption?
Vous m'avez dit que vous gardiez vos crèmes pendant 20 ans, vous gonflez.
Et bien d'accord, votre produit va perdre en efficacité. Hein. Les actifs qui ont des vertus beauté,
c'est pour ça que Jimmy, que ça marche pas.
Ils deviennent moins concentrés avec le temps, comme le prouve la fondatrice de la marque La Beauté, Lucille Bataille.
Quand on développe un produit cosmétique, on lui fait passer un certain nombre de tests avant de le mettre sur le marché. Des crash tests, on les met à la lumière, on les fait monter à grande température, puis on les baisse très fort. Et ça peut déstabiliser en fait la texture, par exemple. Ça va déphaser sur une émulsion, on va dire qu'elle déphase. Vous allez retrouver l'huile d'un côté et l'eau de l'autre. Effectivement, un produit qui vieillit, donc qui va être exposé à plein de facteurs environnementaux longtemps, etc., va être moins efficace.
Et utiliser un produit périmé, c'est prendre le risque de faire des réactions cutanées, hein, comme des boutons ou des rougeurs, mais aussi plus grave, de l'eczéma ou des conjonctivites.
Bon, Benjamin, pour éviter ça, est-ce qu'il y a des moyens de préserver au mieux ces produits de beauté? Est-ce que dans la salle de bain, par exemple, c'est une bonne idée?
Eh ben non, c'est la fausse bonne idée.
Tout est dans la salle de bain.
Oui, mais une salle de bain, c'est humide et chaud, donc c'est un terrain de jeu parfait pour les bactéries. En fait, un produit cosmétique, il doit rester à l'abri de la lumière, hein, parce que ça perturbe son équilibre chimique. Et puis, ça doit rester dans un environnement frais. Donc peut-être que l'idéal serait de mettre ces crèmes au réfrigérateur, même si c'est pas pratique d'aller tous les matins dans sa cuisine pour sa routine beauté, sauf si, comme moi, vous vivez dans un studio.
Alors pour finir, Benjamin, parce que là je suis en train de pleurer, comment reconnaître qu'un cosmétique est périmé? Est-ce qu'on goûte?
Eh bien, c'est comme un poisson ou plutôt une mayonnaise, hein, ça va tourner et le premier signe qui doit vous alerter, c'est l'odeur qui a changé, qui est désagréable. Et puis, comme le dit Anne-Marie Gabellica, il faut regarder la texture et la couleur du produit.
Si vous constatez, par exemple, que le produit, il y a un petit peu des phases qui se sont séparées, c'est-à-dire que vous avez un petit peu l'eau et l'huile d'une crème qui sont séparées, donc ça veut dire que vraiment le produit n'est pas bien conservé. Et puis, un autre aspect, c'est la couleur. Si vous constatez que la formule a vraiment jauni, bruni, là, c'est un signe assez caractéristique, par exemple, d'oxydation. Et là, c'est pareil, ne pas utiliser le produit.
Mais si jamais il vous reste un fond de crème ou d'huile qui est juste un petit peu déphasé, le petit conseil, c'est de l'utiliser pour hydrater vos pieds. Vous prendrez très peu de risques puisque la peau des pieds est moins fragile que celle du visage.
Bah, très bien. Merci beaucoup, Benjamin.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et c'est Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste, je vais y arriver, à Paris, qui rentre en scène tout de suite. Alors si elle arrive à se dépatouiller avec son masque,
elle arrive. Avec son masque.
Catherine, je vous lis la question pendant que vous vous installez bien avec votre masque. Donc la question d'Anaëlle, elle a 30 ans, elle nous dit « Je suis l'aînée de la fratrie et ma petite sœur de 24 ans est en couple depuis plusieurs années. Je me rends compte que je suis de plus en plus jalouse de sa situation puisque je suis célibataire depuis toujours. Hormis quelques flirts. Qu'en pensez-vous ? Catherine, est-ce qu'il faut vraiment se comparer ? Moi, j'aurais tendance à dire non, mais à ses frères et sœurs, c'est étonnant. On pourrait être éventuellement jaloux de ses copines, mais c'est frangin, finalement, quand même.
Ah, mais plus que jamais, ce sont bien sûr avec eux que se noue la notion de jalousie
de rivalité,
de rivalité, puisque nous devons historiquement partager un être absolument indispensable, à savoir notre maman, puis notre papa. Et ce personnage, premier maman, puis papa, sont indispensables à notre survie. Donc,
oui, donc sur le plan sentimental, on est liés depuis toujours, quoi. Sentimental global, quoi, je veux dire.
Exactement. Ouais. Et donc, notre fratrie, les plus grands ou les plus petits, avec lesquels nous devons partager ces êtres d'amour, ces êtres de sécurité et de confort vont nourrir en nous beaucoup de haine, beaucoup d'agressivité, beaucoup de jalousie et, comme il y a beaucoup de culpabilité aussi, du coup, beaucoup d'amour. C'est-à-dire qu'on va développer un amour et une protection à l'égard de notre fratrie parfois. Parfois, c'est même pas ça, hein, c'est carrément très hostile. Mais sinon, même quand c'est joyeux, tendre, chaleureux, très honnêtement, c'est aussi nourri d'une grande anxiété. On essaie de les mettre dans notre poche parce qu'en fait, ils sont nos rivaux. Et donc, du coup, ça se rejoue régulièrement. Mais c'est vraiment avec eux que se noue ce sentiment de jalousie.
Donc la jalousie, c'est quelque chose de normal, puisque finalement, il y a de la rivalité. Mais jusqu'où elle peut aller ? Vous avez parlé d'agressivité, mais il ne faudrait pas en venir aux mains non plus. Enfin, où est-ce qu'on place le curseur pour dire que je suis jaloux de façon normale et pas excessive ?
Alors déjà, chez les enfants, quoi, en tant que parent, on peut se poser aussi cette question-là, puisqu'on se dit que c'est normal. Alors on croit qu'en achetant un cadeau à la naissance d'un enfant, hop, l'affaire est pliée. Pas du tout. D'ailleurs, les enfants font des trucs assez parfois dangereux. Ils mettent en péril. Hein. Il y a des trucs parfois assez très
joués, balancés discrètement sur le bébé.
Voilà, des moments où... moi, j'ai entendu des histoires assez terribles de jeux à la balançoire devant la fenêtre ouverte, oh des choses, ou des choses dangereuses avec un enfant plus grand, donc plus à même de gérer son corps dans des trucs d'escalade quand le plus petit est plus en difficulté. Ceci étant, il y a toujours la peur immense pour l'enfant qu'il se passe quelque chose. Il a le désir, mais il essaie de le refouler. Et du coup, il est à mi-chemin entre deux eaux. Donc évidemment, le rôle des parents est capital parce que ce n'est pas pour punir l'agressivité de l'enfant, c'est pour le protéger de sa culpabilité liée à ce désir d'hostilité à l'égard de sa fratrie. Donc c'est normal d'être jaloux et reconnaître la jalousie, reconnaître l'insécurité, comme le disait très bien Jimmy. C'est pouvoir dire à l'enfant, c'est normal, il faut apprendre à partager, tu as peur de perdre ce qui est important pour toi. Pour autant, il faut aussi que tu découvres ce que ça t'offre de possibilités, de découvrir que tu n'es pas dépendant de tes parents.
Alors là, on parle quand même de sœurs qui sont adultes, hein, quand même, parce que bon, oui, certes, tout se joue, commence parfois dans l'enfance, mais là, ce sont deux grandes sœurs, donc 24 et une trentaine d'années. Elle est jalouse au point de lui en vouloir, sa petite sœur, d'être de 24 ans, d'être elle en couple et heureuse. C'est quand même dur d'en arriver là.
Mais parce que, en fait, ce qui va se produire pour elle, c'est qu'elle est justement l'aînée et qu'elle entend rester l'aînée, même si elle continue.
C'est
l'aînée,
je devrais être en couple la première. Quoi.
Exactement.
Il y a un peu ça, en fait,
c'est d'abord moi qui dois être servie, moi qui dois avoir le plus gros morceau.
Et ensuite,
etc.
Éventuellement, tu auras le droit.
Et puis moi qui ouvre les portes, tout en s'en plaignant par ailleurs, mais qui ouvre les portes pour que ma petite sœur puisse avoir le droit à son tour à découvrir le monde. Or, c'est sa petite sœur qui est dans un lien d'amour, qui donc va pouvoir projeter la construction d'une famille, le cas échéant. Et ça, ça lui est très douloureux parce que ça rejoue justement ce lien d'amour, à savoir la maman qui est plus intéressée par la petite que la grande. Et en fait, c'est une résurgence, sa difficulté amoureuse, sa difficulté de relation de couple, fait ressurgir son anxiété de petite fille détrônée par une autre petite fille.
Entre frères et sœurs, on sait que la jalousie fait partie du jeu en quelque sorte, mais personne n'en parle. Est-ce que justement, on doit parler de la jalousie avec son petit frère ou sa petite sœur, au risque de passer pour un idiot quand même, non ? Parce que c'est pas très moralement acceptable de dire que je suis jaloux de ta réussite.
Bien sûr. Vous avez raison, Jimmy. Je crois que ne pas dire les choses n'annule pas les sentiments et les sentiments, l'inconfort de ces sentiments. Donc je trouve que c'est bien que des adultes se penchent sur leur douleur à vivre ensemble et à fonctionner ensemble.
Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces conseils. Et donc, à demain.
C'était Sans Rendez-vous avec Cyclamed. Hors période de confinement, rapportez en pharmacie vos médicaments non utilisés. Qu'ils soient périmés ou non, Cyclamed les collecte et les valorise. Plus d'infos sur cyclamed.org.